Nous sommes le 30 juin 2023 à Fort-Calquier, dans la bibliothèque associative Agathe Armoise et Salamandre Corps et Politique, et nous sommes en présence de Mila Ivanovic, qui va nous présenter son entrée Corps Continent dans l'abécédaire des féminismes présents aux éditions Libertalia, coordonnée par Elsa Dorlin, et aussi, en tant que DJ Mamaloba, son travail autour de la musique, le reggaeton comme musique émancipatrice, arme de destruction massive du sexisme. Merci beaucoup, Mila, d'être parmi nous ce soir.
Merci à toutes et tous d'être là ce soir, ça fait plaisir. Je viens de Marseille, je me disais, sur le chemin, ça va être particulier aujourd'hui. J'ai l'impression d'aborder un sujet un peu trivial, vu l'actualité dominante de ces derniers jours. Et voilà, Marseille est en feu, était en feu hier, est en feu encore aujourd'hui, donc ça tombe bien aussi qu'on ait le livre pour en parler. D'une autre manière, pour déplacer aussi le regard, je pense que le regard féministe est un regard absolument nécessaire pour repenser la violence, et la violence politique, et la violence sociale, et la violence économique. Et bon. Voilà, donc c'était une manière aussi de rendre hommage à la fois à Naël, à la fois à ceux qui se soulèvent contre ce crime horrible. Maintenant, on peut engager les hostilités. Concernant donc la rencontre d'aujourd'hui, je vais peut-être commencer par me présenter moi un peu par une biographie succincte, parce que ça donne un ordre d'idée d'où je parle et de comment je parle aussi. Donc moi, je suis au départ docteur en sciences politiques. J'ai longtemps travaillé, et je travaille d'ailleurs toujours sur l'Amérique latine, en particulier sur le Venezuela, où j'ai passé 10 ans de ma vie, donc beaucoup autour de la recherche. Et j'ai aussi vécu en Équateur, et c'est en Équateur que je me suis vraiment impliquée, on va dire, politiquement dans le féminisme. En fait, en gros, où j'ai même, on peut le dire, découvert un peu le féminisme. Donc c'était, on va dire, sur l'échelle de la périodicité importante, dont on va d'ailleurs revenir, enfin, sur laquelle je vais revenir là, dans l'intervention, puisque c'était entre 2016, 2017, 2018. Et voilà, donc ça c'était aussi un cheminement à part. J'ai eu un projet de documentaire sur les féministes latino-américains qui n'a finalement pas vu le jour pour plein de raisons, qui allait s'appeler Cuerpas, et c'est aussi pour ça que je ne le dis pas de manière complètement anodine. Cuerpas, donc c'est le corps, cuerpo, féminisé, c'est un mot qui n'existe pas, mais qui est un néologisme des féminismes latino-américains, qui justement parle du corps au féminin. Ça c'était déjà un premier aspect, on va dire, de mon parcours. Et puis je suis rentrée en France il y a maintenant 4-5 ans, et à Marseille en particulier est né un projet il y a 2 ans, un 8 mars, donc un peu plus de 2 ans maintenant, 8 mars 2021, autour de justement trois femmes réunies par leur passion de la musique, et aussi d'une certaine manière du perreo, sur un terme sur lequel je vais aussi revenir. On a décidé donc de créer ce collectif féminin de DJ à Marseille, autour notamment de la culture reggaeton, mais aussi latino-américaine. Voilà, et ça fait 2 ans qu'on tourne beaucoup à Marseille, et que ça nous a permis aussi d'aller notamment à Fort-Calquier à 2 reprises. Et c'est donc aussi de ce point de vue-là, de cette position-là que je parle, puisque je me suis retrouvée à 40 ans à devenir DJ et à faire bouger des boules, quoi. Et en fait, d'une certaine manière, c'était pas du tout forcément quelque chose que j'avais réfléchi, mais ça s'est fait, et c'est dans la continuité en fait de cette pratique qui est née d'un engagement, on va dire, à la fois militant et culturel, j'ai réfléchi en fait à ce qui avait été ce parcours, et notamment mes réflexions autour du féminisme latino-américain et de la musique. Voilà, ça c'est une première introduction sur l'ensemble de l'intervention. Mais ce qui nous a donc réunis, en fait, comme le précisait Céline tout à l'heure, c'est donc au moment où j'arrive à Marseille, Elsa Dorlin y était encore, et il se fait qu'on a travaillé ensemble à Paris 8, parce que j'ai eu mon doctorat à Paris 8, et j'ai à un moment donné de mon début de doctorat, partager avec elle. Et donc, quand je suis arrivée à Marseille, je l'ai retrouvée et on s'est retrouvés autour d'une envie aussi de faire des choses. Et puis, très vite, il y a eu le Covid. Et puis, au moment du Covid, elle me dit « Écoute, je suis sur un projet. Voilà, j'aimerais bien que tu y participes. » Bon, et je ne savais pas encore du tout de quelle nature était le projet. Elle me dit très vaguement « Il s'agit d'un dictionnaire des féminismes du temps présent. » Voilà, j'aimerais bien que tu écrives quelque chose. Ah bon, mais quoi ? Enfin, qu'est-ce que je vais écrire ? Puis en plus, je ne me sentais pas forcément légitime pour le faire. Et je lui dis, écoute, elle me dit que ça va être des entrées. Donc c'est vraiment, tu as la liberté, c'est pas long, c'est des articles courts de 10 pages. Et tu fais ce que tu veux. Ok, bon. Donc, ce qui me paraissait être sensé par rapport à mon parcours, c'était de retracer un peu ce qui avait été mon expérience dans cette analyse et à la fois cette pratique des féministes latino-américains. J'ai donc décidé donc de faire quelque chose d'assez court sous l'entrée que j'ai nommée Corps Continent. Et donc pourquoi Corps Continent en fait dans l'idée, c'est que pour moi il était très important de rappeler une des grandes particularités de ces féministes latino-américains. C'est leur grande, finalement, répercussion au niveau régional. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce qui se passait en Argentine se répercutait en Équateur, en Colombie, au Venezuela, et que chaque chose construite dans un des pays, alors évidemment, on va dire moteur l'Argentine, parce que ni una menos en particulier, mais que se sont construits vraiment des réseaux transfrontaliers, transnationaux, de sororité, de pratiques politiques, de réflexion et surtout voilà, d'engagement en fait dans des rapports. Bah là, on n'a pas éteint son téléphone, c'est bon. Du coup, voilà, alors Feu, donc, qui est paru en 2021 aux éditions Libertalia, est un gros pavé. Et Elsa l'a vraiment pensé comme ça, comme une espèce de somme. Des féminismes présents, d'un livre choral où il n'y avait pas forcément de fil directeur, mais elle avait envie voilà, de donner la parole à ces femmes en grande majorité qui pouvaient apporter, de par leur travail, leur trajectoire, à réfléchir sur un instant, un moment et dire voilà, où on en est des féministes dans nos pratiques. Donc, moi, ça a été, et c'était pas plutôt aussi quelque chose d'intéressant puisque. Malgré le fait qu'il y ait 80 et quelques entrées, il n'y en avait pas une seule qui abordait directement la question latino-américaine. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle m'a demandé de le faire. Et que je pense aujourd'hui qu'il y a énormément de choses encore à réfléchir sur ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années sur le continent latino-américain en matière justement d'avancée en fait, féministe. Donc voilà. Évidemment, l'idée, c'est pas que je vous présente Feu, d'abord parce que j'en serais absolument incapable. Et peut-être que juste je revienne et pour faire un peu honneur au texte, voilà, je sais pas, on écrit plein de choses des fois, mais je trouve que ce texte-là, je l'aime bien, parce que je pense qu'il est, il est parti vraiment du cœur et de quelque chose que j'avais moi besoin en fait d'extérioriser parce que je viens d'un parcours d'exil, de dépatriation et de répatriation et que ça m'a aussi fait voilà, ça me permettait de faire ce lien entre ces deux moments de ma vie et ces deux moments en fait de mon militantisme aussi. Donc pour le dire un peu, j'ai beaucoup en fait, enfin j'ai pas grand chose à finalement, je ne peux pas me tirer un grand honneur à ce texte-là, puisqu'il est beaucoup fait de textes de femmes qui ont écrit, d'intellectuels et de praticiennes, on va dire, féministes latino-américaines. Mais je vais quand même vous en lire juste une partie qui me semble assez, enfin voilà, qui est assez évocatrice par rapport à la suite de la présentation, sur laquelle on va justement un peu diverger sur la question générale du féminisme, puisque au départ, enfin, encore une fois, le reggaeton n'est pas du tout un sujet d'ordre féministe. Donc, je vais vous faire une petite citation, puis ce sera la seule. La particularité latino-américaine, s'il faut l'identifier en tant que telle, réside dans son caractère massif, populaire et transnational qui tourne une page de l'histoire de notre mouvement pour lui imprimer sa marque de fabrique à vocation essentiellement internationaliste. Les raisons en sont nombreuses, mais j'en pointerai une en particulier. L'échec du retour des gauches, c'est avec des guillemets, au tout début du siècle et dans de nombreux pays de la région, donc Venezuela, Équateur, Bolivie, Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay, Honduras, Nicaragua, dans leurs objectifs de renversement de la tendance néolibérale et surtout dans le caractère incontestablement patriarcal, phallocentrique et anti-droit en ce qui concerne la question des femmes et non normées, notamment droit à l'avortement et dissidence sexuelle. Leur échec et leur incapacité à construire une politique antipatriarcale et anticonservatrice a alimenté le terreau de l'explosion féministe. Voilà, donc c'est en gros ce que raconte cette entrée hors continent. Et cette progression de mon engagement, la musique est devenue quelque chose qui fait partie de mon quotidien, puisque donc on a créé ce collectif au départ. La Ziba del Perreo, aucune d'entre nous était DJ professionnelle ou même amatrice, mais on avait comme envie de pouvoir en fait, je pense, transmettre quelque chose de l'ordre à la fois de cette particularité latino-américaine très forte de l'émancipation et des luttes qui se sont menées durant ces 10 dernières années, et à la fois pouvoir aussi transmettre culturellement des choses au niveau musical et au niveau de la danse et de la fête. Donc ça a été une découverte pour ma part, qui était, vous voyez bien, enfin universitaire, ou à devoir me poser la question, en fait, de dire, bon, pourquoi on s'est nommé la Zivas del Perreo? Donc, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, bon, las divas, les divas, ça tout le monde comprendra, del perreo, le perreo. Le perreo, c'est quoi? C'est un terme donc, qui, littéralement, en espagnol, signifie, qui est lié, en fait, au chien, donc à l'idée de cette danse qui serait une danse qu'on pourrait éventuellement définir comme une danse de mouvement, de la reproduction des chiens, donc de la levrette, voilà, donc quelque chose de très, très sexuel, et au départ le perreo très péjoratif, notamment à l'égard des femmes. Et puis en fait c'est pareil, 10 dernières années les féministes latino-américains ont repris ce terme pour en faire un terme de lutte, de réappropriation et finalement de revendication sur leur corps. Donc ce qui était un terme péjoratif au départ est devenu un terme émotif et aussi quelque part un étendard d'une lutte. Hein. D'une lutte qui s'exerce sur un terrain qui n'est pas forcément gagné d'avance, puisque... Et c'est un peu ça, ça va être ça la progression, on va dire, de mon intervention aujourd'hui, c'est de raconter un peu d'où vient le reggaeton et comment moi je le perçois comme un possible instrument d'émancipation, ou en tout cas comme il a été aussi perçu et récupéré comme instrument de libération, d'émancipation. Juste pour faire aussi un point et pour parler un peu de la Ziva del Perreo, parce que c'est quand même une sacrée aventure. Au-delà du fait aussi qu'on met en avant le reggaeton et le perreo, donc cette danse très sexuelle, mais aussi avec un effet énorme de souveraineté des femmes sur leur corps, on a fait un jour une interview il y a quelques temps et on nous a demandé si vous pouviez donner chacune, on est trois dans le collectif, un mot qui représente le perreo pour vous, un synonyme. Et chacune, on a donné un terme différent et ça a donné pouvoir, liberté et capacité d'oser. Voilà, c'était le fait d'oser. Donc, ça nous ramenait encore une fois à ce côté, en fait, ce qui était au départ perçu comme un terme finalement où la femme est en rapport de passivité complète, puisqu'elle est prise en levrette, si on veut voir les choses comme ça, là tout d'un coup c'était la possibilité d'exprimer un rapport de libération, de pouvoir et de simplement faire les choses et oser faire les choses alors qu'on n'a pas forcément été conditionné comme ça. Donc, voilà, le cadre un peu est fixé. Maintenant, je voudrais qu'on revienne justement à l'histoire. Je fais un peu de la généalogie musicale, mais je pense que c'est important en fait parce que le propos va assez loin en fait dans la réflexion. Donc, il faut qu'on ait tous les éléments pour pouvoir réfléchir. Et pourquoi en fait je parle du reggaeton comme outil d'émancipation, ça peut paraître même très, très provocateur. Des fois, ça l'est aussi, et il faut l'être. Je pense un peu. Alors, l'histoire du reggaeton et notamment la présence féminine dans le reggaeton, ça commence, il faut remonter aux années 90. Les années 90, on est dans les Caraïbes. On est dans les Caraïbes, on est en particulier, alors quand on va regarder les sources et un peu les spécialistes de la question, on fait remonter l'existence du reggaeton à début des années 90 au Panama. Bon, ça peut paraître étrange parce que c'est vrai que le Panama n'est pas un pays d'une grande réverbération culturelle. Mais par contre, le Panama a une particularité intéressante. C'est que d'abord, il a la jonction des deux parties de l'Amérique latine. Il fait la jonction avec les Caraïbes aussi. Qu'il a été un espace d'investissement impérialiste très important avec le canal de Panama et notamment avec, au moment de la construction du canal, avec l'arrivée massive de travailleurs jamaïcains. Donc, il y a par exemple du côté caribéen, Colón, c'est une ville où on parle majoritairement anglais. Parce qu'il y a donc cette présence de Jamaïcains, Jamaïcaines très forte. Donc dans les années 90, en fait, qu'est-ce qui se passe? Très bêtement, les premiers sons de sound system raga dancehall de Jamaïque arrivent au Panama. Bon, et c'est cool parce que du coup, ils entendent ce nouveau son. Les mecs commencent à rider sur ces sons-là, et ça commence à faire avec donc des pionniers comme El General qui commencent à faire des sons à partir de riding qui sont ce qu'on appelle le dembo, avec ce gros son derrière jamaïcain. Parallèlement à ça, on redescend un peu, là on va sur les Caraïbes insulaires et on se retrouve à Puerto Rico. Et à Puerto Rico dans les années 90, là on est sur un espace dans lequel on a des jeunes hommes de quartiers populaires qui sont tournés vers la musique, qui font du rap. Et puis, à un moment donné, qui se disent, il y a cette espèce d'épuisement un peu musical, et du Panama, en fait, arrivent ces sons un peu jamaïcains, dembo, et les mecs commencent à rapper dessus. Ce qui fait que on a une première salve de reggaeton qui commence à apparaître, et en fait, le mot... voilà, on ne sait pas très bien distinguer s'il est apparu au Panama ou à Puerto Rico, bon, bref. Mais c'est vraiment à Puerto Rico que finalement se stabiliser un peu cette culture reggaetonera. Et on voit apparaître notamment, peut-être que si vous avez un peu de culture reggaetonera, les grands, les deux premiers, artistes qui se lancent sur... ce registre-là, c'est Daddy Yankee et Nicky Jam, qui commencent, ils sont vraiment des rappeurs au départ, quoi, mais qui se disent, dans ce truc-là, il y a un flow nouveau, il y a un truc, on va y aller, quoi. Et en plus, avec ce côté, ce qu'ils appellent à Puerto Rico le malanteo, c'est-à-dire le truc de la racaille, quoi, du mec qui peut raconter ses exploits sexuels, les violences, les coups de feu, les conflits dans le quartier, voilà. Et c'est, en fait... les premiers temps, les premiers moments de la naissance du reggaeton, c'est vraiment ça. Sauf que ça prend très bien. À tel point que donc il se passe à l'époque les cassettes clandestinement, parce que en plus à Puerto Rico c'est quand même aussi un régime très particulier, puisque un état libre mais sous l'influence américaine et avec une très forte taux de pauvreté et une très grande inégalité sociale. Et en gros ça devient la musique des quartiers, et ça devient une musique qui est perçue par l'élite comme étant une musique absolument subversive, transgressive. De fait, hein, il parle, c'est très violent, ça peut être très misogyne. Donc, il y a une interdiction littérale du reggaeton à la fin des années 90. On interdit, donc les mecs se passent, les cassettes, tout est clandestin. Sauf que, comme dans tout, comme dans tout épisode d'interdiction, de prohibition, évidemment, ça fait que finalement, donner un peu plus de lest à cette culture. Donc par ailleurs, pour revenir à nos moutons, mais la question donc la place des femmes dans cette longue histoire du reggaeton, au départ, elle est absolument nulle. Évidemment, mais de la même manière que dans l'histoire du hip-hop, qu'il soit américain, français, les femmes sont absentes et leur place en tant qu'artiste même n'est pas du tout ni reconnue ni présente, mais pour plein de raisons sur laquelle on pourra peut-être revenir. Mais malgré tout, on a quelques pionnières, dont une artiste qui s'appelle Ivy Queen, qui devient un peu... à ce moment-là, la seule femme qui propose justement cette forme de faire du reggaeton et qui s'impose de plus en plus sur la scène reggaetonienne. Donc elle a une trajectoire très, très lente, très longue, c'est 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est encore quelqu'un qui produit. Et elle fait d'ailleurs une chanson qui est devenue un peu l'hymne des féministes, qui s'appelle Yo Quiero Bailar, donc je veux danser. En fait, dans cette chanson, elle dit je veux danser, mais ça ne veut pas dire que je vais aller au lit avec toi. Et c'est devenu, en Amérique latine, bien que ce soit une chanson qui date, je dis, des années 98, je crois, c'est devenu vraiment un hymne qu'aujourd'hui, on écoute en boucle, quand on est féministe en Amérique latine. Et quand on a cette culture reggaetonera. Donc, on est à ce moment-là avec donc, une forte influence du rap américain, évidemment. Et donc, déjà, un effet d'acculturation. Donc, il y a eu un effet d'acculturation entre la Jamaïque, le Panama, Puerto Rico. Mais il y a aussi tout un effet de va-et-vient entre Puerto Rico et les États-Unis, parce que voilà, sous l'effet de leur culture un peu jumelée, c'est aussi un aspect très, très important. Et ce qui fait déjà, qui nous donne déjà une première lecture de cette naissance du reggaeton, comme une lecture déjà transnationale, et comme une lecture que moi, après je pourrais développer, mais que je dirais post-coloniale. Okay ? Pour l'instant, encore une fois, en vous disant, dont les femmes sont absolument exclues. On passe à la période suivante, 2000-2010. Là, on assiste en fait à vraiment un essor du reggaeton au niveau international. C'est-à-dire qu'on commence à écouter dans les boîtes de nuit, en France, en Europe, du reggaeton. C'est l'époque Don Omar, c'est l'époque Daddy Yankee. Et c'est l'époque où les gens découvrent ce style-là, alors qu'il existe depuis plusieurs années, mais qu'il commence donc à se commercialiser. Alors, c'est pas forcément hyper intéressant comme période, parce que évidemment, tous les processus de commercialisation, ça enlève évidemment ce qui était au départ peut-être l'aspect le plus intéressant, un peu transgressif, un peu de rapport en fait à l'identification, notamment sociale, ethnique, de ces artistes-là. Mais en tous les cas, 2000-2010, on est encore et toujours dans une espèce de redite de la grosse misogynie des paroles, avec des représentations et une symbolique d'extrême hypersexualisation des femmes, voilà, encore une fois, passive. Donc c'est l'époque, allez, je parle d'artistes parce que c'est important de faire référence à eux aussi, Don Omar, Tego Calderón, Arcángel, Héctor y Tito, voilà, ça c'est les grands noms de cette époque-là. Je donnerai juste un exemple d'une chanson qui circule donc à ce moment-là, chantée donc par le duo, qui était au départ un duo Daddy Yankee et Nicky Jam. Ils ont une chanson en 2001 qui s'appelle Yo quiero la combi completa, c'est-à-dire je veux la combinaison complexe. Et là, tout le monde chantait Chucha culo teta. Donc chucha, la chatte, le cul et les seins. Voilà, et ça c'était les paroles de reggaeton, hein, et qui étaient d'ailleurs, le public venait, femmes, hommes, tout le monde chantait ça, ça je pense. Donc on avait ce truc, encore une fois, je pense, de naturalisation, enfin comme ça, de l'hypersexualisation caribéenne, on est là sur un mode, voilà, enfin, on parle de cul, on parle de cul crûment, et voilà. Mais encore une fois, toujours formulé et énoncé par des hommes. Et puis, donc, dans cette vague de commercialisation, apparaît en 2005 un titre incontournable, quand on veut un peu comprendre les différents moments comme ça de l'évolution de ce genre musical. Bon, tout le monde la connaît, Shakira, hein, 2005. Elle fait une chanson qui s'appelle La Tortura, la torture. En duo avec un mec, Alejandro Sanz, qui est un espèce de pop man. Il est venu d'ailleurs, voilà. Et alors, la tortura, les spécialistes disent la tortura, c'est vraiment le premier morceau de reggaeton pop, voilà, qui a ce côté, en plus, qui est chanté par une égérie de la pop globale, world music, quoi, mais qui déjà apparaît sur les scènes américaines. Donc, on n'est plus dans la world music, on est vraiment dans la pop internationale. Et donc, en fait, quand on regarde le clip de La Tortura, je vous invite à aller le voir, parce que c'est quand même, ça mérite son passage. Shakira, donc elle est avec Alejandro Sanz, c'est une histoire d'amour, évidemment, très compliquée. Il y a une scène où Shakira est en train de couper des oignons sur sa table de cuisine et ouais, c'était littéralement violé par Alejandro Sanz. Donc on se dit, waouh, c'est clair que, littéralement violé, encore une fois un peu popifié, tout ça, c'est pas exactement du viol, mais enfin bon, je veux dire, voilà, c'est, elle coupe des oignons quoi. Enfin, donc, c'est une image véhiculée de la femme qui est quand même particulièrement problématique. Mais ça passe crème. Et voilà, et ça fait un super succès, la tortura. Voilà, on en est là en 2005, donc on est vraiment encore très loin de l'émancipation à travers le reggaeton, vous voyez ce que je veux dire. Là où tout se transforme, on va dire. Alors c'est difficile, moi je ne suis pas forcément encore une fois une universitaire, je ne travaille pas sur cette question-là, je fais vraiment du point de vue de... à la fois de ma passion pour cette musique, enfin toutes les musiques latino-américaines, et aussi pour comprendre un peu comment se fait la musique et comment on peut justement, comment les mouvements sociaux se réapproprient un certain nombre de genres musicaux, et en particulier celui-là. On se pose la question donc de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne quelque part cet outil dont je parle d'émancipation. Et alors là, il faut tourner la page et arriver au début des années 2010. En fait, au début des années 2010, va se passer un phénomène assez particulier. Alors, d'une part, je pense que ça rentre aussi un peu dans l'économie politique de la musique et de l'industrie de la musique au niveau global. c'est qu'on passe à deux modes complètement différents de diffusion de la musique. Jusqu'en 2010, on est vraiment sur le système de diffusion via des supports, que ce soit le CD, c'était le CD à cette époque-là, quoi. Et puis après, 2010 commence l'arrivée progressive du format digital, donc dématérialisé. Et ça, c'est important aussi pour comprendre en fait comment le reggaeton s'est développé et comment et surtout pourquoi il a pu réussir. Enfin, voilà, on a pu s'y engouffrer et les femmes ont pu s'y engouffrer en fait. Donc, on a toute cette période-là qui est marquée par l'arrivée massive, on va dire, d'un certain nombre d'artistes féminines. Je ne vais pas forcément toutes vous les énoncer, mais j'aimerais quand même qu'on en parle. La première en termes de production, c'est-à-dire qui commence à produire musicalement et voilà, à devenir chanteuse, artiste de reggaeton, il y a Karol G. Donc Karol G, c'est une Colombienne établie qui vit à Medellín. Karol G qui est devenue un peu maintenant, je ne sais pas si vous la connaissez, mais Karol G, voilà, ça devient un peu, c'est la Rosalía, mais de Colombie. Donc on a Karol G en 2007 qui commence à produire. Ensuite on a, donc je vous l'ai donné en gros, hein, La Joaquí en Argentine, Nati Natasha qui est dominicaine mais basée aux États-Unis, Becky G qui est mexicaine basée aux États-Unis, Kazoo qui est argentine, Farina qui est colombienne, Anita qui est brésilienne, Coquicha qui est dominicaine, Rosalía qui est de Barcelone, Miss Nina qui est de Barcelone, Chocolate Remix qui est d'Argentine, Nati Peluso qui est de Barcelone, Argentine, Babiel qui est de Barcelone. Voilà, et ça en fait, je vais vous donner là une liste d'artistes qui vraiment émergent peu ou prou au même moment, c'est-à-dire entre 2007 et 2015. Alors, Karol G, juste pour faire un petit point là-dessus, parce que je pense que c'est quelqu'un de très intéressant d'un point de vue justement de sa progression et de ce qu'elle a pu véhiculer en termes d'image et en termes d'empouvoirment, en tout cas, de représentation d'empouvoirment chez les femmes. Elle a une chanson qui est la plus récente, 2017, qui s'appelle Le Point G. Voilà. C'est la première, enfin, elle a une chanson qui s'appelle Le Point G, donc où elle parle du point G. Et elle a une chanson qui s'appelle Mi Cama, c'est-à-dire mon lit. Et en fait, le rhythm, le beat, c'est un lit qui crispe. Ouais. Enfin, encore une fois, c'est une façon en fait de positionner la sexualité de la femme, chose qui n'avait été jamais faite et qui s'est fait de manière, on va dire, très naturelle. Donc c'est aussi la génération plateforme et d'une certaine manière cette génération de femmes qui arrive à un moment donné à une époque de démocratisation de la musique et de l'accès. Alors, je mettrai plein de guillemets à ça, mais il y a quand même, c'est sûr, un effet important. Alors, je parlais de Miss Nina, MS Nina, qui est donc de Barcelone. Quand elle parle, par exemple, dans une de ses chansons, elle dit « Perreando por fuera, llorando por dentro ». C'est-à-dire, c'est pour la part, il n'y a pas de traduction, mais je fais du perreo à l'extérieur et à l'intérieur, je pleure. Donc encore une fois, qui note ce truc de cette féminité, cette forme de dire ok, moi je fais de mon corps quelque chose qui peut paraître pour beaucoup absolument peut-être vulgaire, mais j'ai aussi une sensibilité de femme, c'est-à-dire celle de pouvoir pleurer à l'intérieur. Enfin, Et elle dit quelque chose d'intéressant, et là je vais reprendre quand même pas mal d'interventions en fait de ces artistes pour qu'on arrive aussi un peu à suivre le cheminement. Elle dit, dans une interview qu'elle a faite, « Je me considère féministe, non pas parce que je me considère mieux qu'un mec, mais parce que je peux dire la même chose qu'un homme. » Voilà. Donc, la question qu'on peut se poser à cet état de la discussion, c'est est-ce que finalement, on peut constater, et on constate dans les différentes productions de ces artistes, une libération sexuelle, mais est-ce que cette libération sexuelle nous amène forcément au féminisme ? Voilà, c'est un peu la question que je me pose à ce moment-là de l'intervention. Et donc, pour pouvoir y répondre, je vais introduire en fait une nouvelle, disons, un nouvel élément, qui est donc la question du néo-perreo et du reggaeton féministe. Alors, néo-perreo, c'est l'appellation qui a été inventée par une chilienne qui s'appelle Tomasa de la Real. Pareil, fin des années 2010, donc on est autour de 2017. Et en fait, qui fait un truc hyper gothique, futuriste. Et en fait, avec vraiment une variante, elle reprend les beats du reggaeton, mais avec l'appropriation de codes qui peuvent être très déglingués et dans un répertoire très, très queer, en fait. Là, on est sur les premiers balbutiements, on va dire, du néo-perreo. Et il y a, à la suite de Tomás de la Real, toute une, donc c'est 2014, elle, première évocation de ce concept, de cette catégorie, de ce genre. À la suite, donc, toute une série d'autres artistes, donc notamment Chocolaté Remix, que j'ai déjà mentionné, qui est argentine, qui est lesbienne et qui a notamment fait un morceau sur qui s'appelle Ni Una Menos, qui justement reprend toute la lutte des Argentines autour des féminicides. On a Bea Pelea en Espagne, la Zoe en Espagne aussi, Sailor Fag qui est trans au Mexique, et la Pili en Espagne. Voilà, je vous donne quelques artistes que justement après cette discussion on aura l'occasion d'écouter, puisque j'ai fait cette playlist justement pour pouvoir pas simplement parler mais aussi écouter la musique dont on parle. Et donc ça devient donc du coup à la fois un reggaeton queer, féministe, et qui vraiment prend le côté hypersexualisant pour le détourner et en faire une arme de déconstruction du sexisme, une proposition qui ne soit pas que de l'hétéronormativité. Et donc il y a notamment aussi, alors là c'est pas elle directement une artiste reggaetonella, mais une artiste qui au départ une chanteuse compositrice argentine qui s'appelle Rocío Pérez Silva, et qui a fait un clip qui est assez mémorable. C'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on puisse voir les choses en même temps. Ça aurait été rigolo de voir la Tortuga, Shakira ensemble, mais bon, on ne peut pas tout faire. Elle a fait une reprise assez géniale qui s'appelle Yo decido cuando se menea. Autrement dit, je décide quand je dois battre des hanches, quoi. Et c'est vraiment avec, on voit les panuelos verdes, donc les foulards verts argentins, enfin c'est une prise de position très claire, très nette, très politisée, sur le reggaeton. Donc, pour clore ça, parce que j'ai pas forcément de prétention à avoir des vérités toutes faites, moi je vous lance des éléments et j'essaye moi-même de construire à partir de ces éléments une espèce d'analyse, mais c'est pas forcément encore tout à fait achevé et à la fois quelque part tant mieux. Quand on parle justement de ce reggaeton féministe, on aurait tendance à mettre plein d'artistes aujourd'hui qui sont aujourd'hui des artistes en vue, qui tournent, qui vivent vraiment de ça, qui se font plein d'argent avec ça même. Et je voudrais revenir à Shakira, parce que je trouve que Shakira est un solide fil directeur de toute cette histoire. Shakira, donc, qui fait une intervention il y a quelques semaines au Billboard Latin Billboard. Et en fait, elle reçoit le prix de la femme de l'année. Bon. Non, mais arrête de rigoler, hein, c'est pas drôle. Et c'était hyper émouvant, quoi. Moi, j'ai quasiment chialé, quoi. Et donc, elle fait un discours. Et pendant 10 minutes, c'est Eva Perón, quoi. Enfin, elle s'enflamme. Et bon, alors de fait, il y avait Piqué derrière. Enfin bon, elle était bien déjà émulée, si tu veux. Mais quand même, et elle dit... elle parle de ses sœurs, du fait que cette année pour elle a été incroyable, qu'elle a découvert vraiment, enfin voilà, qui elle était, dans son rapport à ses sœurs, enfin que voilà, on est quand même sur des registres politiques, mais comme on a pu voir dans plein d'événements de ce type-là, et pas seulement autour de la musique, bien voilà, ça fait plaisir quelque part aussi qu'on ait ce genre de quelque part d'écho, quoi, et que alors oui, à Pinkwashing, bon. Après tout ça, on peut en discuter, mais voilà. Le fait est que quand on la voit, la foi, franchement, elle est sincère, quoi. Voilà. Bon. Donc, évidemment, là, ce qui pose problème dans tout ça, parce que c'est bien joli, l'émancipation, mais c'est vrai que quand on se dit, putain, ouais, ces meufs, en fait, elles répètent les mêmes schémas, quoi, qui ont fait le succès du reggaeton, mais du reggaeton fait par les hommes pour les hommes, d'hypersexualisation. Hein, on se pose la question, on dit, merde, putain, c'est clair, à chaque fois, pourquoi il faut qu'elles montent leur cul, pourquoi il faut qu'elles montent leur sein, pourquoi il faut qu'elles se dandinent comme ça, pourquoi... Ben en fait, il me semble que justement, ça fait partie de ce processus de réappropriation et de transgression. Donc, là-dessus, il y a plein de choses qui se disent. Moi, je voudrais en dire quelques-unes pour pas non plus trop rallonger le temps de parole, mais un truc que j'ai défini comme le corps, comme art, en fait. Ou comme support d'abord de discours, comme support de représentation. Le corps est là et il parle et à tous les moments. Et alors je vais prendre quelques exemples, pardon. C'est le corps comme art et aussi comme travail. C'est important. Enfin, je veux dire, elles font de leur corps un instrument de travail, forcément. Mais bon, on revient là à du reggaeton. Alors c'est pas du reggaeton, en plus c'est du dembow, parce que là il y a ça aussi. Hein, parce qu'aujourd'hui le reggaeton est tellement popularisé que finalement il a fait des petits dans tous les sens. Alors c'est pas forcément des petits, mais aujourd'hui du dembow qui est de République dominicaine, on peut se tromper, voilà, mais il y a différentes formes. Mais bon, bref, on me dit que le dembow, le reggaeton et la trap en Espagne, par exemple, voilà, ça fait partie d'un même univers. Hein, à mon sens, moi, je l'entends comme ça. Donc, je reviens sur Tokicha. Tokicha, c'est vrai qu'elle ne fait pas du reggaeton, elle fait du dembow. Mais elle travaille, elle bosse beaucoup avec des artistes du reggaeton. Et c'est surtout devenu une espèce d'égérie. Alors, c'est une nana qui est hyper intéressante parce qu'elle a un parcours très récent. Alors, de travailleuse sexuelle, d'abord. De raciser, bon, ce qui est quand même le cas de beaucoup d'artistes de reggaeton. Et c'est une nana qui a complètement pornographié le reggaeton. Vraiment, elle y est allée, mais à fond, quoi. Donc, elle a une chanson, ça s'appelle Calencula Varinal. Mais ça s'écoute partout, hein. C'est pas une niche d'un truc que personne n'écouterait. C'est Tokicha. Tokicha, c'est une artiste qui est écoutée par tout le monde. Hein. Voilà, Calentula Vaginal, qu'on pourrait traduire par échauffement vaginal, un truc du genre, Calentula, quoi. Let's Ah oui, Carole G, il y a un truc intéressant, récemment aussi, autour du corps, non ? Elle a été photographiée par un grand magazine de mode, je ne sais plus si c'était Vogue ou quoi. Et elle a fait un scandale le lendemain, parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que les photos qu'ils avaient publiées d'elle avaient été retouchées. Mais en fait, avaient été retouchées pour enlever les formes, la graisse, les seins, enfin voilà. Et elle a dit, non, moi, mon corps est ce qu'il est, et je veux qu'il apparaisse tel qu'il est. Carole G, c'est une nana qui a un problème en plus de diabète, vraiment, qui est bien en chair, ferme. Et voilà. Et ça, je trouvais ça intéressant, en fait, qu'on va à l'inverse de ce qui se fait dans justement toute cette façon de représenter les femmes dans le monde de la mode ou de l'industrie musicale globale. Nati Peluso, j'aime bien parler. Nati Peluso, c'est pareil, c'est une autre artiste intéressante. Alors, elle est différente aussi par rapport à cette histoire de corps, hein, je suis toujours là-dessus. Elle, dans une de ses chansons, elle dit si me agacho, sientes mi clito. Donc, si je m'accroupis, tu sens mon clito. Et, ouais, et en fait, c'est pareil, on parle de musiques qui sont vachement développées, que les amis peuvent écouter, et qu'on va danser en fait avant tout. Et c'est peut-être ça aussi l'intéressant là-dedans, c'est qu'elles utilisent aussi ce support-là pour faire passer des messages, alors que bon, la plupart vont pas forcément écouter les paroles, elles vont plutôt danser juste parce que le son est bon et que voilà, ça. Mais ça me paraissait quand même aussi intéressant, en fait, de faire revenir à chaque fois le corps et le plaisir de la femme sur le devant de cette scène musicale au départ très misogyne. Je vais donc juste là, je vais vous renvoyer à une citation. Alors oui, pour les intéressés, je me suis beaucoup inspirée de ce bouquin-là qui est sorti il y a 6 mois. Alors c'est une édition évidemment espagnole. Reggaeton. Et una revolución latina, donc une révolution latine. Et là, je me référais, donc lui, c'est Pablito Wilson, c'est un Argentin qui est installé en Colombie, qui retrace un peu tout ça, toute l'histoire du reggaeton des années 90 à nos jours. Et là, j'avais pris, je ne sais pas pourquoi, sur la question du corps, la citation d'une artiste alors, qui s'appelle La Bruja, qui est une nana qui était pas du tout, enfin, qui n'a pas du tout percé, mais qui a été interviewée dans un documentaire américain sur la naissance du reggaeton aux États-Unis notamment, enfin avec toute la communauté latina américaine. Et elle dit ça, et on est en 2004 quand même. Donc je trouvais ça pas mal. Je vais faire une vidéo de reggaeton et je vais avoir des pénis partout et un micro en forme de pénis. Et merde quoi, tout va tomber comme ça autour de moi et voilà, ça pourrait juste être juste. Je veux des pénis partout. Et là évidemment, à quoi elle fait référence ? C'est-à-dire à l'absence. En fait, nous, voilà, ils nous ont exposé nos corps, nos culs, nos seins et tout d'un coup. Elle, en tant que femme, elle aimerait bien juste pouvoir avoir des bites partout comme ça et en faire un usage de divertissement et de représentation. Voilà. Donc je trouvais ça aussi intéressant. Ce côté où on se dit, bon, on a un peu avancé. Ah, et donc, oui, pour terminer là-dessus sur le corps, mais c'est pas rigolo. Tokicha, donc je reviens à Tokicha, la dominicaine. Tokicha qui apparaît, je ne sais plus, cette année-là, c'était... remise de prix, je sais pas quel truc de mode, machin, enfin bon. Elle apparaît dans un déguisement en forme de vagin, voilà. Et ça aussi, c'est, je trouvais, bon, ça dit quelque chose, quoi. Donc, vous me direz, non mais ouais, tout ça c'est très bien. Alors, l'histoire avec le corps continent, pourquoi le corps continent, du coup, le corps continent. Eh bien, parce qu'en fait, j'ai fait une espèce de... Je me suis dit, mais pourquoi... C'est vrai que tout d'un coup, alors ce reggaeton qui est au départ un truc hyper machiste, machin, misogyne, tout d'un coup devient, et on en parle, en tout cas certaines, bon, peut-être pas forcément en France, même si en France on commence à s'y intéresser aussi, mais disons que en Amérique latine, enfin, je veux dire les États-Unis, des premiers artistes au Billboard aujourd'hui, c'est un Portoricain, c'est Bad Bunny. Je veux dire, c'est pas non plus anodin, c'est-à-dire que c'est une musique qui a conquise même les États-Unis, qui restaient quand même nettement en retrait de toute l'affluence des musiques latino-américaines, caribéennes, quoi. Donc voilà. Bon, mon corps continent est donc la question des luttes féministes. Et là, je vais revenir à une citation, donc cette fois-ci, de Farina, qui est colombienne. Alors, depuis que nous avons usage de la raison, la femme, c'est la partie fragile, la partie sensible, celle qui n'a pas de force. Depuis qu'on est toute petite, on nous met dans la tête cette terreur et cette peur. Et beaucoup le croient. Voilà. Et en fait, pour dire que ces femmes-là, qui ne sont pas du tout des militantes, mais font quand même état, en fait, d'un discours où elles disent, ben, y a basta. Ça va, je ne veux plus avoir peur. Et comme des milliers de femmes latino-américaines ont fini par dire « ya basta », on n'a plus peur, la peur a changé de camp. Voilà, c'est aussi une manière de revendiquer cet aspect. Sans qu'on ait forcément de récupération, c'est trop compliqué pour les meufs. En tout cas, les artistes qui tournent sur des grandes majors, c'est évidemment un business avant toute autre chose. Là-dessus, il n'y a pas de confusion. Par contre, voilà, elles font état de quelque chose qui se passe. Et moi, en fait, ce qui m'a le plus interpellée dans cette histoire, c'est que je vous disais, vous voyez, début 2010, là, c'est, ça commence, ça s'envole, c'est tout d'un coup l'apparition de beaucoup de femmes artistes reggaetonnées. Et en fait, ça coïncide avec l'intensification de la violence faite aux femmes. À partir de 2012, en Amérique latine, on constate une intensification de la violence. Et je me dis, ah, c'est quand même bizarre. Voilà, tout d'un coup, y a des femmes qui vont se battre contre cet état de fait, et puis il va y avoir, en effet, ce qu'on ne peut pas forcément sentir aussi, de manière aussi consistante en France, en Europe, croyez-moi, en Amérique latine, on le ressent. Et ça devient des espèces de, au moins d'alliés, en tout cas, si ce n'est pas des représentantes, c'est au moins des alliés. Voilà, on se sent accompagné là-dedans, et c'est aussi pour ça que le perreo, le reggaeton, a pu aussi s'émanciper de ce truc hyper misogyne au départ. Et qu'ensuite, on a dit, bah oui, non mais même moi, je vais avoir la liberté de danser sur ce truc en étant féministe, même quand on a des paroles qui ne sont pas du tout, qui ne vont pas dans notre sens. Bon, ça pose encore un certain nombre de problèmes, mais en tout cas, il y a ce côté. Et il y a ce côté aussi important que je vous donne, donc je vous disais par rapport au féminisme latino-américain, à cette identité transfrontalière des féminismes. Mais c'est marrant parce que justement, chez certaines artistes, donc on a le cas de Nati Peluso, elle est argentine d'origine. En fait, Nati Peluso, elle a dû partir au moment de la crise de 2001 en Argentine avec ses parents. Elle était petite, hein, et les parents, la famille se sont installés à Barcelone. Mais donc c'est quelqu'un qui conserve encore énormément son identité latino-américaine. Et en plus, latino-américaine, d'avoir été dans une situation dans laquelle le FMI a mis en difficulté l'Argentine. Voilà, donc elle a aussi, et elle le dit dans un certain moment dans les interviews, ce truc, en tout cas aussi de liant entre l'Espagne, l'Argentine, ce rapport latino-américain important. On a à l'inverse Rosalía. Elle, c'est l'Espagne, et puis tout d'un coup, Rosalía découvre l'Amérique latine. C'est fabuleux. Non, mais vous voyez, Rosalía découvre l'Amérique latine, elle n'en peut plus, c'est génial, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, elle est tellement ça qu'elle s'est maquée avec un Dominicain, un Portoricain, pardon, Raúl Alejandro. Et en fait, elle dit dans des interviews pareilles, elle parle beaucoup de ça, de cette découverte et de cette proximité aussi qu'elle engage. Parce que ce qui est important, je pense, de voir, c'est aussi du côté espagnol, qui a aussi participé, je pense, à l'essor du reggaeton, mais sur une modalité très différente, parce que l'Espagne a été très très réticente au reggaeton jusqu'il n'y a pas très longtemps, parce que c'était la musique des latino-américains, parce que c'était la musique de ces vagues de migrants qui envahissaient l'Espagne. Voilà. Donc il y a eu une très forte vague xénophobe aussi, envers les latino-américains et donc envers cette musique, mais pas de chance, il y a eu le trap est venu rattraper et c'est aussi énormément inspiré de Hamilton. Du coup, voilà, Rosalía, je parle de Rosalía et de Rauw Alejandro, et Rosalía, elle parle dans une interview avec son mec à côté, là, et elle, je sais pas, c'est un truc à la con, mais on lui demande, oui, alors, Rauw, vous vous êtes rencontrés. Elle a dit un truc qui m'a paru intéressant, elle a dit, en fait, moi, ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il était différent des autres hommes qui sont sortis. Il avait cette masculinité, elle parle d'ailleurs de masculinité, déjà un peu marqué par le discours féministe, c'est cette masculinité qui ne peut pas, qui n'arrive pas à être aimée. Elle dit ça. Et ça, c'est. Voilà, je trouvais ça aussi intéressant qu'une artiste de cette échelle-là puisse reproduire au moins des morceaux, des éléments de discussion autour notamment de la masculinité toxique. Tout ça, donc là, à gros traits, je vous ai un peu brossé ce panorama. Moi, ce qui m'intéresse en fait encore de vraiment montrer, alors il y a l'aspect que j'ai peut-être évacué là, sur lequel je reviens maintenant, tout de suite même. Le reggaeton, donc à la fois comme élément de, disons, de discours, de raisonnement féministe, mais aussi comme empreinte des identités dissidentes, notamment LGBTQI. Comment en fait le reggaeton a ou pas s'est inspiré ou a réussi à être transformé par ces identités-là. Et là, on va prendre des exemples. Donc, où en fait, moi je dis, le reggaeton féminin est devenu une espèce de monde à l'envers. À la fois parce que certaines artistes, notamment, alors là, je vais vous citer encore une fois Naty Peluso, qui dit dans une chanson, et ça, c'est buenissimo. En fait, c'est une chanson, c'est bueno, la chanson c'est bueno, donc c'est bon quoi. Et en fait, elle reproduit exactement tout ce que les chansons du reggaeton, même pas misogyne, tout ce qu'on peut, les artistes masculins peuvent dire en fait. Qu'est-ce que racontent les mecs? Les mecs, ils racontent comment ils kiffent une nana et voilà, comment ils aimeraient bien coucher avec elle, en grande partie. Et en fait, elle fait l'inverse. Donc elle fait ce truc du monde à l'envers, et c'est elle là, qui vient presque harceler dans la rue le mec, il dit c'est pas buenissimo. Bon, c'est assez rigolo. On a Tokisha qui, elle, alors, registre différent, là, on monte en niveau, quoi. Elle dit carrément, mais elle dit ça aux femmes parce qu'elle est, alors, elle est bi. Mais on entend une femme dire « mets-toi à quatre pattes ». En fait, dans le dembow et dans le reggaeton, le « mets-toi à quatre pattes », on l'entend tout le temps. Voilà. Donc en fait, c'était dit par des hommes, quoi. Et là, tout d'un coup, c'est les femmes qui vont le dire. Et qui peuvent dire à un homme « mets-toi à quatre pattes ». Voilà. Donc bon, c'est intéressant. Et puis on a deux figures. on a deux figures très intéressantes qui ont émergé. Bon, alors... Une, en fait, on dit émerger, en fait, on connaît pas. Hein, ben, je vais prendre Bad Bunny. Bon, je vais commencer par Bad Bunny parce que c'est vraiment pour le coup, je pense que c'est lui qui fait un peu la conclusion de toute cette réflexion. Bad Bunny, donc, qui est un mec qui vient du ghetto portoricain, qui fait du rap au départ, reggaeton, machin. Puis tout d'un coup, il arrive, en fait, 2019. Il y a à Porto Rico un soulèvement à l'encontre du gouverneur de Porto Rico. Contre, d'abord, contre le statut absolument illégal et asymétrique sous lequel vit Puerto Rico, mais aussi et surtout contre les élites et contre la corruption. Et donc il y a gros soulèvement, des manifestations massives à Puerto Rico, ce qui n'arrive pas souvent pendant quelques semaines. Et, alors, incroyable, qui mène ces manifestations? sur le camion là, vous savez, comme le camion de la CGT ou quoi, ouais. Et là, bah, il y a Bad Bunny et Residente. Enfin, autant vous dire, Residente, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien chanteur de Calle 13. Grand groupe, pour le coup, reggaeton engagé, machin, très, enfin, rappeur et reggaeton engagé. Un truc soivé, enfin, un truc light. Pas light, parce que c'est intéressant aussi comme, comme expression, disons, du reggaeton. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, apparaît Bad Bunny et Residente. D'ailleurs, ils ont fait une chanson juste après, ensemble. Donc, c'est eux qui, le mec qui a appelé, qui a rangé la foule pour aller défoncer la porte du palais du gouvernement, quoi. Bon, voilà. Donc Bad Bunny, et puis là, Bad Bunny, l'année d'après, sort un album qui va révolutionner, je pense, la musique. Il va aussi, enfin, la musique et la diffusion de la musique et du reggaeton en particulier. Et qui est aussi intéressant parce que c'est un mec, il est complètement hétéro, mais il commence à jouer en fait sur une image d'indistinction, de comment on pourrait dire pas non normé, hein, c'est-à-dire il peut être tout d'un coup arrivé avec une longue jupe, enfin, je veux dire, c'est un rappeur, quoi. Mais là, il y a ce truc où il commence à intégrer des codes queer, enfin, complets. Je veux dire, c'est un mec qui est costaud, des tatouages, il inscrit un peu cette nouvelle image d'un Rico De Niro qui tout d'un coup peut muter, et puis surtout il fait une chanson qui fait un tabac qui s'appelle Yo Creo Sola, qui est donc en fait où il se grime de femme dans son clip et il dit bah voilà, je veux danser le perreo toute seule. Il se fait minuit en fait. C'est un jalon important. Et bon, par ailleurs, c'est un mec qui s'est investi beaucoup pour Puerto Rico et contre les États-Unis. Bon. Voilà. Et puis d'autres figures aussi très, pour le coup, trans. Il y a Villano Antillano, aussi un Portoricain, une Portoricaine qui émerge aussi sur la scène, qui devient un peu aussi un représentant de la communauté queer trans. Et surtout en faisant du reggaeton aussi bien dur, voilà, mais qui arrive complètement tenu en cuir, hyper voilà, inondé, machin. Et il y en a donc d'autres, Archive, les Young Miko aussi, parfait. Donc on commence à deviner, en tout cas, vraiment la diversification des images véhiculées par reggaeton, et moi je trouve encore une fois une forme de disposition à transgresser et à proposer d'autres codes. Et pour terminer, et pour revenir aussi au début juste de la présentation où je vous ai l'état de comment était né en fait le reggaeton, c'est hyper intéressant que le reggaeton soit né dans ce triangle là qui en fait même c'est une quadrature parce que c'est donc la Jamaïque, le Panama, Puerto Rico et les États-Unis. Les États-Unis sont toujours là. Mais en fait, de circulation d'abord des identités raciales et des identités sociales. C'est une musique qui est avant tout créée, produite et destinée à des secteurs populaires. Mais c'est aujourd'hui une musique qui arrive, et on connaît bon, toute la rhétorique néoconservatrice américaine qui pointe justement peut-être la fin de l'anglais comme langue principale aux États-Unis, mais voilà, le reggaeton en tout cas participe de cette nouveauté et de surtout de on va dire presque l'invasion hispanophone aux États-Unis. Et donc ça aussi, bon, ça rejoint un peu cette idée que j'ai mentionnée sur le transfrontalier et le postcolonialisme comme un peu vecteur du reggaeton et aussi de son évolution. Et j'ai terminé. Je voudrais juste peut-être que je pourrais les donner après. Il y a quelques choses. Voilà, ça vous intéresse d'aller un peu plus loin, notamment avec des supports qui sont assez abordables parce que certains sur Netflix. Alors il y a un documentaire sur Nicky Jam. C'est une série sur Nicky Jam. C'est un biopic mais qui est très bien fait. Je vous recommande. Il y a un autre truc sur Netflix pour ceux qui sont à Netflix qui s'appelle Ritmo Salvaje. C'est là et c'est une histoire de colombienne de 3-4 nanas, un groupe de danseuses de perreo, de reggaeton à Medellín. Il y a un documentaire sur Arte que j'ai vu récemment et je crois qu'il est encore... Alors là, c'est pas du tout sur le reggaeton, mais c'est sur la question de l'hypersexualisation, en fait, dans cette nouvelle pop urbaine globale qui s'appelle Pussy Pleasure Power. Ouais. Et il y a, moi je vous recommande aussi, moi j'ai pas eu le temps de développer là-dessus, mais peut-être qu'on aura dans l'échange la possibilité de le faire, un excellent pareil sur Netflix, je fais pas la pub de Netflix, mais bon, voilà, c'est comme ça, il y a des trucs bien sur Netflix, donc autant en profiter. Ça s'appelle Move, en fait c'est une série de documentaires sur la danse, et un de ces épisodes, en fait, traite du dancehall, et à partir, en fait, du portrait d'une danseuse qui s'appelle Kimiko Versatile. Et notamment pour justement atterrir cette question-là du reggaeton, parce qu'on ne parle pas finalement trop de la danse, j'ai pas trop parlé de ça. Là, en fait, ça nous donne une belle, je veux dire, une espèce de distance par rapport au perreo en tant que tel, quand on peut le comparer, ou simplement voilà, le mettre sur l'ensemble, en fait, des danses. Parce qu'on parle du twerk aussi, bon, il y a tout un débat si le twerk, le perreo, c'est pareil. En tout cas, dans le dancehall, il y avait un truc hyper intéressant que disait Kimiko Versatile sur le dancehall. Disait, parce que voilà, on condamne cette façon de danser, voilà, je veux dire, le puritanisme blanc le condamne, ou l'a condamné, ou le condamne encore, bon bref. Et elle disait, mais en fait, c'est pas juste parce qu'on est des noirs et qu'on serait considérés comme des sauvages qu'on danse comme ça. C'est qu'en fait, le dancehall, au départ, était une danse qu'on retrouvait chez les femmes qui, en fait, étaient des communautés de sororité, d'organisation féminine, et que cette danse-là était au départ une danse de préparation à l'accouchement. Voilà. Et que c'est comme ça que c'est devenu, petit à petit, une danse qui a, autant certainement de l'esclavage. En tout cas, voilà, c'était des choses qui me paraissaient aussi aller... Dans le même sens.
Le deuxième, tu avais dit le docu après Historia Salvaje.
Ritmos Salvaris. Ouais. Merci. Bon, ça c'est plus léger, mais c'est sympa à voir et ça donne aussi une idée de ce que c'est, parce qu'il y a ça aussi. J'ai pas. Bon, il y a Puerto Rico, il y a la Colombie, il y a Medellín qui est aussi très important dans la diffusion du reggaeton, dans la production du reggaeton récent. Mais ça aussi, donc c'est transfrontalier aussi pour ça, parce qu'il y a plein de points. Et aujourd'hui, l'Argentine est devenue aussi un point nouveau de, alors eux ils appellent ça la cumbia 420, qui est en fait du reggaeton avec un peu de cumbia. Voilà, mais du coup on a un continent un peu comme le féminisme l'a été qui déploie une énergie assez sympa pour produire quelque chose. Alors voilà, toujours selon les particularités de chaque pays, mais en même temps qui fait bloc qui voilà, mais j'ai terminé.
Perrita pero inteligente, como Lassie. Soy bandida desde que nací. Sé que no hay otra tota que te lo ajuste así. Pa'lante y para atrás hasta que te venga entromía.